Nous voici entre Loire et Loin, c'est l'heure du magazine du Gâtinais sur ses deux ailes. Merci de nous écouter, bonjour à toutes et à tous. Dans ce magazine, nous recevons beaucoup de gens, des artistes, des écrivains, des créateurs de tout poil, des porteurs de projets, comme on dit maintenant. Mais jusqu'ici, nous n'avons pas tellement parlé du Gâtinais en lui-même, ce territoire très rural, ce terroir. Et c'est un peu ce que nous allons faire dans ce numéro, car nous sommes allés nous balader dehors, oui, tout à fait, dehors, dans les champs, dans les prés, dans les bois. Nous avons passé la semaine le nez au vent, et vous verrez ça d'ailleurs en vidéo bientôt sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Nous avons notamment suivi Frédéric Nérot, président du PETR Gâtinais-Montargois, le pôle d'équilibre territorial et rural. Il nous a emmenés sur le terrain à la rencontre des producteurs locaux. Nous sommes également allez nous balader du côté de la Maison de la Nature et de l'Eau à Chalette, qui propose des balades à la découverte des chants d'oiseaux en compagnie de l'ornithologiste Christian Chandelier, un puits de science et d'humanité. D'ailleurs, vous verrez. C'est donc une émission Le Nez au Vent aujourd'hui, mais on va commencer en musique. A tout de suite, entre Loire et Loin. Nous sommes donc entre Loire et Loin, à la radio, comme chaque samedi sur C2L, mais aussi en vidéo sur les réseaux. Et lorsque vous découvrirez nos reportages en vidéo sur notre page Facebook d'ici quelques jours, vous verrez que nous sommes vraiment allés nous geler les miches. Et oui, en compagnie notamment de Frédéric Nérot, le président du PETR Gâtinais-Montargois. Mais le jeu en valait la chandelle, nous avons appris énormément de choses très intéressantes au micro de Sandrine Manteau, bien sûr.
Amis d'Entre Loire et Loin, bonjour. Savez-vous ce qu'est le PAT ? Alors le PAT, c'est le projet alimentaire territorial. Un projet alimentaire territorial, écoutez, Frédéric Nérot est là pour nous en parler. Il est le président du PETR et ça tombe très bien, notre PETR Gâtinais-Montargois vient d'être primé par l'État pour son projet de PAT. Alors, Frédéric, c'est quoi le PAT ?
Alors, les PAT, enfin projets alimentaires territoriaux, sont impulsés depuis quelques années par l'État, à l'échelon du ministère de l'Agriculture, et sont portés par des collectivités territoriales. Il y a des PAT à l'échelon régional, à l'échelon départemental, et également à l'échelon infradépartemental. C'est le cas du nôtre, puisqu'il est porté par le PETR du Gâtinais-Montargois. Alors je rappelle que le territoire de ce PETR recouvre en quelque sorte le bassin de vie de Montargis, avec 95 communes et un peu plus de 130 000 habitants. Alors, quel est l'objectif d'un projet alimentaire territorial ? Eh bien, bien sûr, c'est d'aller dans le sens d'une alimentation la plus saine possible, la plus équilibrée possible pour les habitants, mais également de favoriser une évolution vers une agriculture à bas carbone, complètement intégrée dans les préoccupations qui sont celles d'aujourd'hui portées par les pouvoirs publics en matière de développement durable.
Alors, votre PAT, votre projet alimentaire territorial a été primé. Dernièrement, il y a eu au ministère de l'Agriculture la remise de récompenses au Salon de l'Agriculture, la remise de récompenses, et vous avez été primé parmi 66 projets.
Alors, il faut savoir que régulièrement, le ministère de l'Agriculture lance un appel à projets autour du thème de l'alimentation durable. Et effectivement, 66 projets ont concouru dans le cadre de cet appel à projets national. Et 29 ont été retenus, dont celui présenté par le PETR du Gâtinais-Montargois, et dont il faut souligner, on en est évidemment très fiers, qu'il est, parmi les 29, le seul qui a été porté dans notre région, la région Centre-Val-de-Loire. Alors, ce qui a été primé, c'est pas le projet alimentaire territorial, puisqu'il n'est pas encore réalisé, mais c'est la démarche que nous suivons en vue de l'élaboration de ce projet alimentaire territorial. Et cette démarche, elle repose sur quatre grands axes. Le premier axe, c'est de favoriser le développement d'une éducation alimentaire, de façon à inciter les habitants de notre territoire à consommer local, à valoriser les circuits courts et avoir, bien sûr, dans toute la mesure du possible, une alimentation équilibrée.
Alors, c'est au niveau des particuliers, mais c'est au niveau des collectivités, je suppose.
Alors, je vais y venir dans un instant. Ce premier axe concerne les particuliers, puisque ce projet, il est conçu avant tout pour nos habitants. Le deuxième axe est aussi important. Il s'agit de lutter contre ce que l'on appelle la précarité alimentaire, avec une attention qui est portée au public les plus fragiles. On sait que nous avons des concitoyens disposant de revenus très modestes et qui, de ce fait, ont parfois une alimentation qui n'est pas celle qui serait souhaitable en termes d'équilibre alimentaire. Toujours dans ce volet-là, nous sommes aussi très attentifs à faire en sorte que la préoccupation alimentaire que je viens d'indiquer puisse se conjuguer avec l'insertion. Il y a par exemple, vous le savez, à Châteaurnard, une légumerie d'insertion qui a été créée. Il y a des projets qui se développent actuellement dans le département du Loiret, notamment autour de l'association Les Jardins de la Voie Romaine, etc. C'est ce genre d'initiative aussi qu'il faut promouvoir. La troisième préoccupation forte qui est la nôtre, c'est de faire en sorte que cette préoccupation visant à favoriser une alimentation de qualité ne concerne pas uniquement l'alimentation individuelle, hein, celle que nous avons dans tous nos foyers, mais également dans la restauration. Et en particulier la restauration collective, le pays gâtinais et le PETR a pris la suite, sont engagés de longue date dans le projet Mon Resto Responsable, hein, qui consiste à ce que les cantines scolaires, les restaurants d'entreprise, utilisent le plus possible les produits locaux. Et c'est d'ailleurs aussi une préoccupation qui concerne la restauration tout court. Il faut absolument que nous incitions nos restaurateurs à valoriser toutes les richesses que nous avons sur le plan des productions locales.
Voilà, alors là vous avez parlé du bout de la chaîne. Le bout de la chaîne, c'est ce qu'il y a dans l'assiette. Maintenant, de l'autre côté, il y a le producteur. Alors, qu'est-ce que vous faites au niveau des producteurs ?
Alors, effectivement, et c'est d'ailleurs par là que je comptais terminer, c'était le quatrième axe, il s'agit d'avoir aussi une action, je dirais, en amont, hein, au niveau du monde agricole, pour faire en sorte qu'on évolue progressivement vers une agriculture bas carbone, une agriculture qui prenne en compte les exigences, mais c'est déjà largement le cas, de la préservation de la ressource en eau. Et donc, ce projet alimentaire territorial, il aura plutôt également un volet agricole qui consistera, d'une part, à continuer les efforts qui ont été entrepris pour que notre agriculture soit le plus économe en eau, mais soit également la plus vertueuse possible en matière d'environnement et notamment par rapport à l'utilisation des produits phytosanitaires. Et d'ailleurs, moi, je tiens à ce propos à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, hein, parce que il s'agit de faire en sorte que la démarche qui est suivie par la grande majorité de nos agriculteurs depuis déjà assez longtemps se poursuive et s'amplifie. Mais on n'est pas dans une situation où on part de zéro. Hein. Il ne s'agit absolument pas de participer à ce qu'on appelle aujourd'hui, vous savez, l'agribashing, hein, consistant à nier tous les progrès qui ont été réalisés, notamment par rapport au fait d'utiliser le moins possible de produits phytosanitaires. Mais il y a aussi, au-delà de cela, par exemple, des démarches visant à favoriser l'enherbement des parcelles, enfin beaucoup d'autres volets qu'on trouve derrière cet aspect politique agricole.
Vous avez parlé de bas carbone. Qu'est-ce que c'est ?
C'est une agriculture qui, par définition, émet le moins possible de gaz à effet de serre. Hein. C'est une préoccupation aujourd'hui qui est partagée par tous les acteurs de l'économie, que ce soit dans l'agriculture, dans l'industrie ou dans d'autres domaines.
Je crois que votre PAT a particulièrement intéressé le ministère en raison de ce volet bas carbone.
Oui, tout à fait. C'était un des aspects, enfin, on a cru comprendre, qui avait favorisé l'attribution du prix. Mais aussi, je crois, ce qui a séduit le jury, c'est le fait que notre projet soit au carrefour, finalement, d'un certain nombre de préoccupations. La préoccupation alimentaire dont on a parlé, la préoccupation environnementale et également la préoccupation sociale, notamment par rapport à ce que je vous ai dit en ce qui concerne les publics les plus fragiles. Donc on est bien au carrefour, finalement, de plusieurs politiques publiques.
Alors, vous avez parlé de l'eau, la préoccupation de l'eau, et vous m'aviez parlé tout à l'heure du CETEC.
Alors oui, derrière le sigle, hein, alors qu'est-ce que ça veut dire CETEC, hein, c'est contrat territorial énergie climat. C'est un contrat qui est conclu entre le PETR et l'Agence de l'eau Seine-Normandie pour une durée de 3 ans, 2022-2024. Et dans le cadre de ce contrat, de sa mise en œuvre, l'Agence de l'eau Seine-Normandie attribue à notre territoire une aide d'un peu plus d'1 million d'euros Alors, à quoi sert cette aide ? Eh bien, à financer des actions qui visent à inciter nos agriculteurs à être le plus économe possible en matière de consommation d'eau, à financer ce que l'on appelle, alors là encore un sigle, hein, les MAEC, c'est-à-dire les mesures agro-environnementales compensatoires, hein, puisqu'il ne s'agit pas simplement d'être sur un registre qui consisterait à donner des leçons ou à définir un certain nombre d'orientations, mais à accompagner la mise en œuvre de changements de pratiques agricoles. Alors, c'est une politique qui rencontre un grand succès, on l'a bien vu, puisqu'il y a eu de plus en plus d'agriculteurs volontaires au cours de ces dernières années. Et donc, bah là, on repart sur un programme de 3 ans et qui, au-delà de la préservation de la ressource en eau, vise également, ça rejoint l'aspect qu'on évoquait tout à l'heure, à améliorer la qualité des eaux souterraines.
Voilà, donc CETEC et PAT, c'est lié.
CETEC et PAT, c'est tout à fait lié. Ça participe à une démarche de développement durable à l'échelle du territoire dans laquelle l'agriculture est appelée à jouer un rôle de premier plan.
Une dernière chose, le PAT, ça donne des sous, évidemment, quand on est primé. Alors, à quoi vont servir ces sous ?
Alors, le prix qui nous a été effectivement attribué dans le cadre du Programme national pour l'alimentation va permettre de financer l'animation du PAT sur une durée de 3 ans. Hein, donc, c'est une très, très bonne nouvelle pour notre PETR, hein, surtout à une époque où, on le sait, les budgets sont très contraints. Donc, c'est la raison pour laquelle on est d'autant plus ravis.
Donc, les animateurs territoriaux, ce sont eux qui vont à la rencontre des différents acteurs, des producteurs entre autres, ou c'est le contraire ? Comment ça se passe ? Ou c'est les producteurs qui vont vous voir ?
Non, ce sera à l'animateur du projet alimentaire territorial d'aller à la rencontre des producteurs locaux. Bon, ces producteurs, on les connaît bien, hein, puisque depuis déjà assez longtemps, le pays gâtinais, et dont le PETR a pris la relève, établit un guide des producteurs. Il y a beaucoup d'actions qui sont menées tout au long de l'année pour valoriser les productions locales, les circuits courts. Donc c'est un milieu que nous connaissons bien, mais ce sera à nous avant tout de faire la démarche.
Merci Frédéric. Alors, donc Frédéric Néraud vient de nous expliquer ce qu'est le PAT, ce qu'est le CETEC. Maintenant, on va faire comme ça. Une fois qu'on a fait l'abstrait, on va aller vers le concret et il va nous aider à rencontrer, à découvrir deux producteurs.
Me olvidaré de tu vida, no buscaré más tu amor. Me has dicho tantas mentiras que no puedo más confiar en ti. Yo seguiré mi camino, tú por el tuyo te irás. Lo siento mucho mi vida, pero todo, todo terminó. Estabas muy confiada y abusabas de mi amor. Sin pena te burlabas y mentías al besar. Sigamos siendo amigos, resultará lo mejor. Bueno que te acostumbres, porque todo, todo terminó. sigamos siendo amigos, resultará lo mejor. Es bueno que te acostumbres, porque todo terminó, porque todo, todo, todo terminó.
C'est Deux Ailes Radio
89.3.
Bon, amis d'entre Loire et Loire, après la théorie, la pratique, on vient de vous expliquer, enfin, surtout Frédéric Nérot vient de nous expliquer ce qu'est le PAT, le projet alimentaire territorial, qui est une sorte d'alliance avec les producteurs pour une meilleure alimentation sur le territoire. Voilà. Et donc Frédéric Nérot, président du PETR, a eu envie de nous faire rencontrer deux producteurs qu'il connaît bien. Il faut dire, Frédéric, vous êtes souvent habillé bizarrement d'ailleurs pour venir voir vos producteurs, parce que vous êtes souvent à la rencontre des producteurs sur ce territoire.
Bah oui, parce que bon, notre PETR recouvre un territoire très rural dans lequel l'agriculture sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de la culture, du maraîchage, de l'élevage, occupe une place importante. Et c'est vrai que j'essaye d'être au maximum en contact avec ces producteurs.
Alors aujourd'hui, nous sommes avec Bruno Guillaume. Bruno, allez, venez Bruno. Je ne mords pas, comme vous dirait Pascal Weber. Pourquoi est-ce que vous avez choisi Bruno Guillaume ce matin ?
Parce que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelques mois son exploitation et que j'ai été très intéressé par... Le contact que j'avais eu avec lui, par les explications qu'il m'avait apportées. D'une façon générale, vous savez qu'on cherche beaucoup à encourager tout ce qui concerne la vente directe. Or, là, on a vraiment une activité de vente directe qui marche très bien et qui est vraiment conforme à ce qu'on voudrait développer dans ce territoire. Donc c'est pour ça que j'ai pensé qu'il serait bien que vous le rencontriez.
Alors Bruno, vous êtes donc, vous proposez cette activité de vente directe de légumes depuis 2015 ici au Bignon Mirabeau.
Oui.
Voilà. Comment c'est venu l'idée ? Au début, c'était peut-être pas évident, parce que, dites donc, 2005, ça fait 7 ans. Il y a 7 ans, vous étiez un tout petit peu pionnier, quand même.
Oui, il faut vraiment avoir voulu. Mais M. Nérot m'avait déjà aidé pour m'installer, déjà. Voilà, on avait eu une subvention de 2000 euros pour commencer à acheter le matériel. Parce qu'il faut du matériel pour travailler.
Qu'est-ce que vous faisiez avant, M. Guillaume ?
J'étais magasinier à Butte-Nemours.
Donc, c'est une reconversion.
Oui, entièrement, oui.
D'accord. Il y a combien de serres ici ? Quelle est la quantité produite ?
Des serres, il y en a 6. Oui. Quantité produite en tomates, pour vous donner une idée, à peu près 3 tonnes. Il y a 1200 pieds chaque année qui est fait. Voilà. Puis après, il y a les salades et tout ça. Bon.
Alors, vous n'êtes pas en bio, vous me l'avez dit tout à l'heure.
Non, mais je ne traite pas. Mais je n'ai pas la marque bio.
D'ailleurs, Frédéric, on n'est pas forcément bio. L'important, c'est plus d'être local. C'est ça ? C'est le circuit court.
Bien sûr, il s'agit d'encourager les productions locales, respectueuses de l'environnement. Bon, on sait que le bio y participe pleinement, mais pas que le bio. Et là, effectivement, on a un exemple de cultures maraîchères qui ne sont pas labellisées bio, mais dans lequel, comme l'a indiqué M. Guillaume, il n'y a aucune forme de traitement. Donc, c'est ça qui compte.
Et il y a l'économie d'eau aussi.
Oui, parce qu'avec des tuyaux peureux, pour éviter de gâcher beaucoup d'eau.
Voilà. Bon. Alors évidemment, M. Weber, il est très déçu parce qu'il pensait qu'on allait rentrer dans des serres absolument luxuriantes avec des tomates rouges, avec des aubergines.
Pour revenir dans 2-3 mois.
Voilà, pour revenir dans 2-3 mois. C'est ouvert quand ?
Je suis ouvert toute l'année. Mais bon, je ferme le mardi parce qu'il faut quand même que je puisse travailler. Étant donné que je suis tout seul à faire ça, donc voilà. Il faut que je vende et il faut que je produise en même temps. Hein.
Mais vous avez quand même été toujours jardinier, jardinier amateur avant de devenir professionnel.
Mes parents étaient à Artenay, ils étaient paysans à Pathé, à côté d'Artenay.
Et vous avez appris avec eux.
Voilà, avec surtout mon grand-père. Il faisait beaucoup, beaucoup de jardins, ils étaient 10 enfants, donc voilà.
Il y a combien de variétés de légumes ici ?
Oh là là ! Oh, comptez une... En pied de tomate, déjà, vous en avez 12. Il y a 12 sortes de pieds de tomate.
D'accord.
Voilà. La noire de crinée, voilà. Et par contre, tous les produits de saison, hein, donc je ne sais pas, une trentaine, à peu près 30, 40.
D'accord. Vous produisez sur quelle période ?
J'essaye, mais vu le temps, c'est le temps qui... Et puis la chaleur, de toute l'année. Bon, là, bientôt, ça va être la fin des poireaux. Bon, les navets, tout ça, c'est fini. Mais on va avoir une coupure. Pendant 2 mois, on va avoir une coupure pour les salades, tout ça, étant donné le temps qu'on a eu.
Là, on peut encore venir chez vous acheter les poireaux et les pommes de terre, les oignons.
Oui, les pommes de terre, les oignons, les échalotes, tout ça, il y en a. Bon, l'ail, c'est fini. Mais sans ça, vous avez les salades. Là, dans 15 jours, ça va être les radis. Et puis ça recommence. Hein, Dans un mois et demi, ça y est, ça sera parti.
Bruno, merci. Là, maintenant, Frédéric, vous nous emmenez chez un éleveur.
Voilà, nous allons aller tout proche du Bignon Mirabeau, à Chevry sous le Bignon, au lieu dit Les Thibauts, où nous allons rencontrer Édouard Kekert, qui est éleveur et qui pratique également la vente directe.
C'est bien. Alors, c'est parti, Monsieur Weber.
En route.
Alors, amis d'entre Loire et Loin, nous sommes toujours en compagnie de Frédéric Néraud, président du PETR. Nous avons parlé du PAT, le projet alimentaire territorial. Et pour l'illustrer, nous venons à la rencontre de producteurs. Tout à l'heure au Bignon Mirabeau, c'était avec Bruno Guillaume qui produit des légumes. Et là, tout de suite, c'est avec Édouard Kekert qui est jeune éleveur à Chevry sur le Bignon. Frédéric, pourquoi ce choix ?
Il me semblait important dans le cadre de ce petit tour d'horizon, en quelque sorte, qu'on fait sur le projet alimentaire territorial, d'aborder après le maraîchage l'élevage, hein, parce que c'est une activité qui, même si elle n'est pas prédominante dans l'agriculture gâtinaise, est quand même importante et qu'on souhaite voir se développer au cours des années qui viennent. Et donc, il me paraissait vraiment important de voir un éleveur, et de surcroît un jeune éleveur, qui est d'ailleurs impliqué aussi dans le mouvement des jeunes agriculteurs du Loiret, afin qu'il nous explique son expérience, son activité. Et vous verrez, il a des choses très intéressantes à nous dire.
Merci Frédéric, à bientôt. On vous laisse vaquer à vos occupations multiples et variées. On aura le temps d'en reparler.
À bientôt, ça sera avec plaisir.
Bien, Édouard. Édouard, on est face à vos belles limousines. Il n'y a pas que des limousines, il y a aussi des charolaises. Racontez-nous.
On s'est installé ici il y a 4 ans. À la base, c'était des charolaises. Avant, on était installé dans le nord de la Seine-et-Marne avec des limousines. Et donc, du coup, quand on est arrivé ici, on a décidé de passer toute l'exploitation en limousine comme on avait nos convictions avec la limousine. Et donc, du coup, aujourd'hui, on n'a pratiquement plus de charolaises. On en voit encore quelques-unes.
Ici, ça s'appelle votre exploitation, votre entreprise, je ne sais pas comment on dit, s'appelle les Belles Rousses.
L'élevage des Belles Rousses, oui. C'est par rapport aux limousines. Et comme on fait de la vente directe, c'est un nom qui sonne bien aussi.
Voilà, ça y est, vous avez dit le mot-clé, vente directe. Alors, où est-ce que vous vendez directement aux clients ?
On vend sur la ferme toutes les 3 semaines environ, sauf l'été quand on est en moisson, parce qu'on n'a pas le temps. Et après, on vend ici à Chevry sous le Bignon, là où on est installé. Et on vend aussi sur l'exploitation de nos parents dans le nord de la Seine-et-Marne, à Compan et à Conches-sur-Gondoire. Et après, en plus de ça, on revend chez des producteurs locaux qui nous font de la revente.
Voilà, j'ai vu une petite... Il y a une petite remorque à l'entrée dans la cour. C'est quoi cette petite remorque ?
C'est notre remorque frigo pour stocker la viande pour la vente directe.
D'accord.
et pour pouvoir emmener la viande sur les autres exploitations et sur les autres points de vente.
Alors, ce qu'on voit là, c'est que les bestioles, magnifiques, elles sont en train de manger du bon foin.
L'alimentation, elle est produite à 90% sur l'exploitation. On est presque autonome. On n'achète que de la pulpe de betterave qui vient de moins de 8 km de l'exploitation. On essaye d'être le plus autonome possible et le plus court. Au moins, on sait ce qu'on donne aux bêtes. Et...
Edouard, vous avez quel âge ?
J'ai 30 ans.
C'est un challenge d'être éleveur encore à l'heure actuelle ? Ou encore, ou simplement à l'heure actuelle ?
Non, pas vraiment, parce que là, je suis installé avec mon épouse. Donc, on est tous les deux à travailler dans les animaux et sur les cultures. Et non, aujourd'hui, on a quand même un très bon suivi dans la région et dans le département. Il y a un très bon suivi pour l'élevage qui pousse à refaire de l'élevage. Il y a des choses qui sont mises en place comme Osons l'élevage pour pouvoir permettre de refaire des troupeaux et se remettre en route pour refaire un peu de dynamique d'élevage.
Le troupeau, c'est combien de bêtes ? Combien de têtes, comme on dit ?
Là, actuellement, on a 70 mères. Donc, on fait à peu près 70 vélages dans l'année.
D'accord. Donc, vous faites du veau, vous faites de la génisse, vous faites quoi ? Comment on vend ? Qu'est-ce qu'on vend ?
Sur l'exploitation, on vend des vaches, des bœufs et des veaux aussi en vente directe.
D'accord. Il y en a un qui est sorti là-bas. Ça arrive.
Ça arrive, là, on est à 15 jours de la mise à l'herbe parce que l'hiver, les bêtes, on les rentre pour pouvoir faire les vélages et suivre les veaux aussi et pour la mise à la reproduction. Et de temps en temps, ça arrive qu'il y ait certains veaux qui sortent, mais ça va se faire. Ils sont pressés de sortir comme les mères, mais ça va se faire dans 15 jours.
Donc voilà, alors une fois qu'elles seront plus en... On dit stabulation encore, quand elles seront plus en stabulation, elles vont se trouver où ? Dans des pâtures que vous avez un peu partout ?
Oui, tous les animaux sur l'exploitation sortent en pâture dans l'année.
Et elles vont rester dehors ?
Oui.
Qu'ils ventent, qu'il pleuve.
Les animaux résistent à l'eau, à tout ça.
Ils vont pas fondre.
Non, mais on est tout autour des prés, il y a des haies, des arbres, donc ça coupe du vent et ils sont à l'abri, et même à l'abri du soleil avec les arbres. Mais les animaux ont besoin de sortir, c'est naturellement pas forcément fait pour rester toute l'année en bâtiment. Mais nous, après, on a des prés qui portent pas forcément et il n'y a pas assez d'herbe pour pouvoir les garder dehors tout l'hiver.
Oui, bien sûr. Bon, vous êtes secrétaire général des jeunes agriculteurs, Edouard ?
Oui.
C'est ça ?
Secrétaire général des jeunes agriculteurs du département et en plus responsable de l'élevage. Donc c'est aussi pour ça que je suis là-dedans.
D'accord.
Et je pousse là-dessus pour relancer Osons l'élevage et éleveurs engagés qui est une mise en place, ça se fait dans d'autres départements. C'est pour pouvoir vendre les bêtes directement aux grandes surfaces et sans intermédiaire. Où il y a juste l'abattoir qui est l'intermédiaire.
D'accord. Vous avez l'intention de développer encore votre exploitation, de rajouter des bêtes ? Comment, c'est possible ou pas ? Ou est-ce que vous êtes au taquet ?
C'est largement possible, mais c'est pas du tout une volonté. Parce qu'on est plus dans une démarche où à faire de la qualité sans forcément avoir un nombre de bêtes important. Après, nous, on est plus dans une démarche où on ne fait quasiment pas d'antibiotiques, vraiment, cas de problème. La nourriture, c'est sans OGM. On essaye d'être, vraiment faire de la qualité.
D'accord. Et alors, la qualité, on l'achète quand ? C'est quoi les jours d'ouverture ici ?
Il n'y a pas vraiment de jour d'ouverture, tout est par commande. En passant par notre adresse mail les belrousse@gmail.com et sinon sur notre page Facebook où on en met les ventes dessus.
Il y en a ici et il y en a là. C'est incroyable, partout il y en a. Partout il y a des filles, des tas de jolies filles qui passent et vous sourient à chaque instant. J'ai beau me dire, c'est pas pour moi. C'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible, tellement il y en a. Il y a bien trop de filles sur terre pour un garçon honnête, pour un garçon sérieux. Il y a bien trop de filles sur terre. Moi ça me désespère et ça me rend nerveux.
plus possible de travailler. C'est plus possible de se concentrer. Partout il y a des filles, des tas de jolies filles qui passent et qui défient tous vos projets. Même si on a ce qu'il faut chez soi, on est quand même, on est quand même, on est quand même, on est quand même pas de bois. Il y a bien trop de filles sur terre pour un garçon honnête, pour un garçon sérieux. Il y a bien trop de filles sur terre, mais pour être sincère, moi j'en suis très heureux. Il y a bien trop.
Bonjour, je suis Jean-Paul, naturopathe dans votre région. Je vous propose du lundi au samedi ma chronique « Le Conseil Santé » sur Radio C2L pour vous donner toutes les clés de votre bien-être au quotidien.
Les plus gros classiques du hip-hop R&B sur C2L Radio dans Hip-Hop sur Loin. Retrouvez-nous tous les vendredis de 21h à 22h, tous les mardis de 23h à minuit pour une sélection 100% old school en compagnie de Johan et Younes. Le meilleur des années cultes du hip-hop à ne surtout pas manquer sur C2L Radio.
C2L. C2L Radio.
Nous sommes toujours entre Loire et Loin. Merci de nous écouter sur C2L et merci de nous regarder en vidéo sur Facebook comme chaque semaine. Comme je vous l'avais annoncé d'ailleurs en début d'émission, cette seconde partie du magazine se déroule aussi en plein air, du côté du Buge, au croisement du canal d'Orléans, du canal de Briard et du canal du Loing, près du lac de Chalette. Il y a là la maison de la nature et de l'eau. C'est en quelque sorte le service environnement de la ville de Chalette. C'est animé par Catherine Pépin, qui organise beaucoup de choses dans ce coin-là, comme par exemple la balade découverte des chants d'oiseaux avec l'ornithologiste Christian Chandelier. Nous les avons suivis dans cette aventure.
Avant toute chose, ça fait combien de temps que une douzaine d'années, non ?
Ouais.
Ça fait une douzaine d'années. Donc, alors, un grand merci à Catherine, vraiment, qui organise tout avec soin. J'arrive et voilà, je n'ai plus qu'à raconter mes histoires. Et c'est formidable, voilà. Je dis ça parce que on ne savait pas, quand on a commencé, que ce serait aussi régulier et efficace. J'ai toujours du monde maintenant. Et une vraie politique, au sens noble du terme, c'est toujours à terme, vous voyez. Et donc, il faut s'obstiner. Je me souviens qu'au début, des fois, il n'y avait personne. Ouais, et voilà. Et bah, on fait bien. Alors, comme vous le savez, l'objectif de cette promenade, c'est l'initiation à la reconnaissance des chants d'oiseaux. Je m'efforcerai de vous donner 2-3 pistes pour essayer de les reconnaître. Ce que je disais hier est toujours valide. La mémoire humaine n'est pas très bonne en matière de son. J'étais musicien, donc je suis bien placé pour le savoir. Et donc, si ce matin, vous arrivez à vous rappeler de 2-3 chants, eh ben, je serais ravi. Sachant que si on vient fin mai, normalement, ça peut être jusqu'à 35. Donc, soyez prudent avec vous et n'essayez pas de vous rappeler de tout. Essayez de vous rappeler de 2-3 trucs, ça pourrait constituer une base pour après aller un petit peu plus loin. Nous sommes le 20,
oui,
c'est ça, c'est-à-dire c'est le printemps.
Bonjour, Alors ce matin, nous allons partir à la découverte des oiseaux des jardins grâce à une initiation au chant d'oiseaux initiée par la Maison de la Nature et de l'Eau qui est sous l'égide de la ville de Chalette et Monsieur Chandelier, ornithologue amateur qui gracieusement et passionnément nous initie au chant d'oiseaux. Donc nous partons en balade de 2 heures environ et nous faisons des arrêts pour écouter et décortiquer certains chants d'oiseaux. Certains sont toujours les mêmes, certains sont différents à chaque fois. Et donc grâce à Monsieur Chandelier, nous avons des clés pour les identifier.
C'est sur son chant. Alors que le chant de la maison charbonnière, c'est vous voyez. Mais dans la catégorie, dans les cris, ce sera très proche. Elles feront toutes les deux. C'est intéressant d'entendre bien que ce soit clair. Les chants et les cris n'ont pas la même fonction. Ce qui nous arrange chez les chants, c'est que c'est territorial. Elles sont là et c'est toujours la même chose. Ça simplifie.
J'ai fait une rencontre incroyable, c'était en 84 ou 85, il s'appelait Jacques Penaud, il est mort maintenant. Et donc il faisait des animations de chants d'oiseaux au bois de Boulogne. Et j'étais comme tout le monde, moi j'imaginais que dans le bois de Boulogne, il n'y avait que des moineaux. Hein. Et ça a été un choc pour moi, et c'est devenu rapidement une passion. Et donc, quelques années après, j'ai commencé à animer des sorties d'initiation aux chants d'oiseaux, parce que j'avais été extrêmement touché par ça et j'avais envie de le...
Alors
Jacques Penaud était une oreille hors du commun, il n'était absolument pas musicien. Donc non, je ne suis pas sûr que... Enfin, il avait une oreille incroyable. Et donc, oui, non, je ne sais pas. Bon, l'oreille est quelque chose de très particulier. J'entends peut-être pas comme les autres, mais... Jacques Penaud avait une oreille incroyable alors qu'il était, je le dis ça gentiment, hein, nul en musique. Donc voilà. Et donc assez rapidement, j'ai fait ça. Donc ça fait bon an mal an, une bonne trentaine d'années que j'anime des sorties ornitho d'initiation au chant d'oiseaux. Parce que je me sens redevable en fait. Ça a été tellement formidable et je me dis au fond, c'est je le dois, hein, je fais ça bénévolement.
Ce qu'on t'a transmis, tu veux le transmettre ?
Ah oui, oui, moi je trouve que c'est bien quoi. Ce type, il a formé des tas de gens et il a suscité des passions. Hein. C'est fort, ça. En musique, il m'est arrivé la même chose. Hein. On rencontre des gens qui ont cette capacité de d'éveiller, en fait.
Hein, transmettre seulement un savoir, mais une passion, en plus.
Voilà, exactement. Et il nous embarque. Alors lui, on attrapait des virus terribles avec lui. Hein.
On parlait des clés, justement. De
oui, j'essaye de donner des clés. Voilà.
De reconnaître un rythme,
des formes,
des choses comme ça.
C'est ce que faisait Jacques Penaud. Et c'est peut-être ça le plus fort. Mmh. C'est que quand on se promenait parmi les joggeurs du bois de Boulogne, il ne se contentait pas de dire ça c'est un rougeoir ou ça c'est un verdier. Non. Il nous donnait des clés pour que c'est un rouge-gorge parce que j'entends ça. Et du coup, quand on rentrait. Du coup, on s'en rappelait. Et c'est ça la clé au fond. Essayer pour rentrer dans ce monde, il faut avoir des entrées. Hein. Il faut et petit à petit, on l'enrichit.
Les caractéristiques qu'il faut aller chercher.
En fait, il est très pédago. J'ai rencontré en musique, comme en ornithologie d'ailleurs, des gens qui ont cette capacité à transmettre. On appelle ça des pédagogues. J'ai essayé de l'être. J'ai rencontré des gens complètement inaptes à ça, même des gens très brillants. Hein. Donc la capacité de transmettre, c'est un art. Hein. Il y a des gens qui l'ont, et ça, je trouve ça assez admirable. Voilà.
Ici à Chalette, c'est depuis
Une douzaine d'années.
Il
faut demander à Catherine, 12 ans, je pense.
Ouais, c'est ça. Donc là, il y a combien ? Oui, il y a 5-6 rendez-vous. Quelques rendez-vous ici à partir du printemps ?
La coutume, c'est 4 rendez-vous par an à partir du printemps, souvent la fin du mois, un dimanche matin à 9h. 9h, c'est pas la bonne heure pour l'ornithologie en soi, mais c'est la bonne heure non, parce que c'est trop tard.
Oui.
Non, pour attirer les gens.
Oui.
Parce que
il faudrait venir à 6h du
matin. À 9h, c'est parfait, les gens y viennent. Et je suis content, et c'est ça le but. C'est, là, c'est vraiment de l'animation, c'est pas de l'ornithologie. D'ailleurs, j'ai pas mon carnet, je l'ai sur moi, bien sûr, avec mes crayons, comme d'habitude, quand je fais du terrain. Là, c'est pas du tout la même chose. Voilà. Et depuis 12 ans, bah, moi, je note que maintenant, mais il faut bien le dire, grâce à Catherine, hein, qui fait un travail considérable, et donc, j'ai toujours du monde. C'est génial. Au début, on se posait des questions, hein. On trempait les quatre tondus de temps en temps. Et là, à force, ça marche.
En fait, ouais, voilà, une fois que le rendez-vous est installé, ça, le bouche à oreille.
Ouais, exactement. Et c'est un peu cohérent avec la politique qui mène ici. C'est que c'est un lieu à la fois de récréation, les gens viennent faire leur barbecue ici. Ah ouais, mais juste à côté, il y a la réserve. Donc il y a une sorte d'interface intéressante entre être heureux d'être dehors à boire une bière avec les amis. Et de se sensibiliser. Au revoir à la nature. Voilà. Il y a quelque chose. Voilà, le sens de tout ça, c'est ça.
Oui, vers mon pavé, c'est ça.
Qu'est-ce qu'on vient d'entendre?
Qu'est-ce que c'est?
C'est un tambourinage. C'est ce qu'on dit. Et ça sert à quoi? Pas du tout.
Non.
Faire sortir les bestiaux?
Non.
C'est
un chant.
C'est un chant
biologiquement.
Ah bon?
Il fait pas ça. Mais la fonction, c'est délimiter le territoire. Il va tambouriner aux quatre coins de son territoire pour dire. Attention, c'est chez nous,
je suis là.
Voilà. En conséquence, quand vous essayez de faire percer un arbre pour manger, vous êtes un pic, vous avez une langue super longue, et vous mangez des insectes xylophages, par exemple. Vous allez manger sur quel arbre?
Un arbre mort.
Oui, voilà, c'est ça. Hein,
c'est-à-dire
bah, il est creux.
Mou.
Donc il n'y a pas de bruit.
Ah, oui.
Qui a déjà fait des percussions dans sa vie?
Ah oui, d'accord, sur du mou, ça ne va pas résonner.
Non. Donc là, il vient de tambouriner sur une partie de bois très saine et qui sonne très bien. Hein, j'étais musicien, ce sont des collègues. Hein. Ils choisissent leur tambour avec soin. Ça déplaît fortement aux forestiers. Parce que, évidemment, pour que ça sonne bien, il faut que le bois soit en pleine santé. Donc jamais il ne tambourine sur un bois mort, essayez. Ça fait toc toc, c'est nul. Surtout que vous avez vu que ça sonne très loin.
J'ai entendu bien.
Ouais. Alors, donc, tambourinage, nous sommes en période de reproduction en mars. On devrait entendre, hein, on en a déjà entendu ici 10, mais là, bon, dans le temps qu'un. Voilà. Tambourinage, il fait ça pour établir son territoire, il va faire ça tant qu'il y a risque de d'être envahi. Hein. Ce qui est formidable, c'est que au début, d'ailleurs maintenant ça commence à être mal vu. Hein, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est ornitho, on se fait traiter de petits rêveurs, et on aime les oiseaux parce que c'est joli. La nature a beaucoup évolué, et aujourd'hui, les scientifiques sont beaucoup plus nombreux et souvent beaucoup plus compétents, mais du coup, l'amateur est devenu de plus en plus amateur. Et parfois, c'est assez désagréable quand on entend des gens « Ouais, mais les oiseaux, il y en a marre, c'est pas, vous intéressez aux oiseaux parce que c'est joli. » C'est devenu ça. Mais il y a 30 ans, c'était pas ça. Et bon, c'est comme ça aujourd'hui. Alors, la différence au niveau des populations, des pertes de biodiversité, c'est gigantesque. Mais peut-être que c'est lié. Être ornitho il y a 35 ans, en tant que ornitho, c'est comme ça qu'on dit, je me sentais assez proche des scientifiques du muséum, mais depuis, ça s'est creusé. Les gens, les scientifiques aujourd'hui, sont infiniment plus compétents que ceux d'il y a 30 ans. Et ils sont plus nombreux.
Et il y a 30 ans, c'était peut-être encore des amateurs éclairés.
C'est ça. Ils étaient pourtant fonctionnaires au muséum. Hein. Mais aujourd'hui,
maintenant, on a développé d'une part toutes les techniques de génétique.
Ah bah, il y a ça, bien sûr. Mais aussi, là, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un stage. Les gens qui animent les stages, maintenant, sont au niveau naturaliste. Hein, c'est-à-dire, ils savent tout. Enfin, tout, c'est pas possible, mais les plantes, les insectes, enfin, c'est devenu vraiment... Aujourd'hui, on a des gens très compétents. Hein.
On entend bien le grain de trop, là. Pour moi, il n'y a pas de réponse simple aux problèmes compliqués. Il y a des périodes de l'année où ça peut être vital.
De donner ?
Ouais. D'autres où ça peut être négatif, carrément. Contre-productif. Donc, vous voyez, et puis ça dépend aussi, vous parliez de pain, ça dépend de ce que vous leur donnez. Nous, les homo sapiens, moi j'ai un peu de tension. Qui n'a pas de tension ici ? Et pour, en partie parce qu'on on mange trop salé. Hein ? Et donc attention, quand vous nourrissez, aujourd'hui, un homo sapiens comme moi, j'ose pas dire mon âge, mais qui n'a aucun problème physique, c'est rare. On est quand même pas très cool avec nos régimes alimentaires. Donc le pain est trop salé. Voilà, un élément de réponse. Un élément de réponse. Donc attention à ce que vous donnez. Moi j'ai eu des oiseaux qui étaient bien contents qu'on leur donne un bout de pain.
Ah, mais ils sont
quand ils gèlent
ils
bien fort, qu'ils ont du mal à trouver à bouffer, dans certains cas, vous pouvez leur sauver la vie.
Mais vous aviez dit un jour qu'il ne fallait pas les nourrir à n'importe quelle époque, parce que sinon ils croient que c'est...
Voilà. Alors après, donc il y a des moments où c'est vital, et il y a des moments où c'est contre-productif. Au-delà du fait que la nourriture qu'on leur donne souvent est trop salée, il y a des moments où le régime alimentaire des animaux exclut ce type de choses. Sachez que quand vous donnez à nourrir aux oiseaux, vous favorisez les adultes. La réponse, elle est là. Si vous voulez favoriser les adultes, pourquoi pas ? Voilà, mais sachez ce que vous faites. Si vous favorisez des adultes en pleine période de reproduction, ça peut être très préjudiciable parce que tous les jeunes sont nourris avec de la protéine. Tous. Donc oui. Et donc, on a vu que on a vu des oiseaux nourrir leurs jeunes avec du beurre. C'est-à-dire qu'ils les ont tués. Donc, prudence, voilà. Mesurer. Et dernier point. Les femelles des oiseaux pondent pas tout le temps. Elles pondent à certains moments. Et le fait qu'elles produisent des œufs, elles produisent des œufs, et après, il y a accouplement de façon à ce qu'il y ait les deux programmes génétiques, celui qui est dans l'œuf et celui qui est apporté par le mâle. Je fais attention à ce que je dis, j'aime pas le mot fécondé. Mais donc, la femelle produit des œufs, mais elle produit des œufs à un moment, à un certain étape biologique. Et en hiver, l'étape biologique n'est pas suffisamment bon pour qu'elle produise des œufs. Et quand il y a à bouffer, qu'il fait chaud, etc., elle produit des œufs qui seront, qui aboutiront ou pas si ça couple ou pas. Mais elle produit des œufs. Autrement dit, parfois, quand vous nourrissez, vous avancez la table de ponte. Voilà. Sachez ce que vous faites. Sachons ce que l'on fait. Moi, je nourris les oiseaux. Hein.
D'accord.
Mais, voilà. Sachons ce que l'on fait. Donc, attention, en ce moment, il vaut mieux pas, parce que vous allez avancer la date de ponte des femelles. Vraiment. Et là, les jeunes vont arriver, il n'y a rien à bouffer. Et donc, la nichée, elle est cuite. Alors moi, je vais en profiter, je vais vous parler de... C'est peut-être un peu hors sujet, mais de ce que je ressens, moi. Ça fait 35 ans que je m'intéresse aux oiseaux, et je n'aime pas du tout la tournure que les choses prennent. Protéger la nature, ou essayer d'avoir toujours des oiseaux dans nos jardins, mon rêve... C'est pas qu'il y ait un policier de l'environnement tous les 50 mètres. Vous voyez ? Et je n'aime pas tous ces gens qui vont vous dire « faut faire ci, faut faire ça ». Et c'est ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, dans le monde de la nature, c'est incroyable comme ça devient rigide
et on va se retrouver avec une société où vous n'aurez pas le droit de faire ce que vous voulez, et on vous dira, ah non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Vous voyez, il y a toujours des gens pour vous dire, ouais, c'est pas bien, voilà. Et malheureusement, dans la nature, dans la protection de la nature, c'est ce que je ressens. Je suis allé il n'y a pas longtemps à une réserve qui s'appelle Pinaille. Allez-y, c'est magnifique, c'est en Charente. Super, petite réserve, magnifique. Mais vraiment magnifique. Poule d'eau.
C'est où ça ?
En Charente-Maritime.
Oui.
Pinaille. Allez-y, c'est okay. Mais j'arrive, le type qui nous accueille, c'est marqué en gros police sur son truc. Voilà. Ah, le type est compétent, c'est sûr. Mais si on fait un pas en dehors du chemin, on va prendre un coup de matraque.
Ah oui.
Donc, bon. Voilà. Alors, protection de la nature, oui. Mais je n'aime pas ce qui se profile. Il y a une sorte de rigidité. Hein. Vraiment. Je ne suis pas sûr que le monde de mes rêves, ce soit un monde où il y a des oiseaux, mais où on n'ait pas le droit d'aller et venir comme on veut. Je ne suis pas sûr.
Je vous dis ça. Hein.
Mais c'était donc ma minute personnelle.
On n'est plus dans la pédagogie.
Planète.
Ah bah c'est net, hein. C'est en réalité ce qui se trame derrière tout ça. Et il va y avoir une conférence bientôt au bar là-dessus. Hein. C'est la fin des insectes.
Bah oui.
Et le fait qu'on ait beaucoup moins d'oiseaux, c'est les symptômes de ça. Simplement les oiseaux, ça nous apparaît. On s'en rend compte, on dit, ah bah aujourd'hui j'ai pas entendu un pinson, rendez-vous compte. Mais le fond du sujet il est pas là. Ah, c'est qu'il n'y a plus d'insectes. C'est-à-dire que c'est on est en train de répondre à la mort en clair. Hein. C'est clair, et quand j'étais petit, je marchais dans les prés, les sauterelles qui volaient, c'est fini tout ça. Et j'ai une anecdote aussi. Dominique Cadoré un jour il me téléphone, il me dit Christian, je fais partie d'une association. On observe les verluisants. Hein. Est-ce que tu veux y participer ? Je dis, bah ouais, pas de problème, j'habitais Prénom à l'époque. Et il me dit, oh, c'est simple, chaque fois que tu vois un verluisant, tu nous appelles. Hein ? Je ne l'ai jamais appelé. Jamais.
Alors, les prochains rendez-vous sont toujours des dimanches matins, le 24 avril, le 29 mai et le 26 juin. Donc rendez-vous 9h à la Maison de la Nature et de l'Eau. Ça serait mieux de vous inscrire afin que nous ne soyons pas trop nombreux. Merci à vous.
Nous étions entre Loire et Loin. Merci de nous avoir écoutés sur C2L. Le podcast de l'émission radio est toujours sur c2l-radio.fr. Et je vous rappelle que nos reportages sont également pour la plupart en vidéo sur notre page Facebook Entre Loire et Loin. Je remercie tous nos invités et je remercie évidemment toute l'équipe, Sandrine, Patrice, Anita, JB. Je vous donne rendez-vous samedi prochain à 10h sur C2L pour un nouveau numéro et sur Facebook, hein, tout le reste du temps. C'était Pascal Weber, au micro et à la réale. Bonne semaine à toutes et à tous.